Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de mai, j'ai rendez-vous avec des auteurs et des personnages hauts en couleur, comme René Frény, le soldat Ulysse, Lauzun, Un rêve d'enfance de Daniel Croze, La bataille de Pavie de André Jacques, et Être fille de Mélissa Phébos. Le premier livre de René Frény est vraiment un roman, un récit intitulé « Minuit dans la ville des songes » édité par Gallimard. Et comme je lui ai dit au téléphone, parce que je le connais, merci à Marie-Lou qui l'a convaincu d'écrire ce livre qui est toute une aventure jamais dite. Alors qu'il avait la sensation de n'avoir plus rien à dire depuis l'apparition de ses derniers livres. Le deuxième livre que je vais présenter est un roman de Antoine Billot, intitulé « Le soldat Ulysse », édité également par Gallimard, ce qui me permet de revenir sur la Grande Guerre de 1914. Vous savez combien elle me fascine, ici avec un autre aspect complètement inédit. Le troisième livre est un grand roman historique qui retrace l'histoire véritable du favori qui fascina puis défia Louis XIV. Il s'agit de Lauzun, c'est son nom célèbre, raconté par Michel Ruffin aux éditions LBS Sélection. Il y aura une plage musicale où vous pourrez écouter Aude Liesse Michel, qui était venu l'an dernier à Brou et qui revient cette année dans l'auditorium de Perona. Voilà, je vous ferai écouter un tango. Et puis il y aura un quatrième livre, un grand roman de Daniel Croze, oui, vraiment grand roman, Un rêve d'enfance, édité au Rouergue. Un cinquième livre qui me tient à cœur, La bataille de Pavie de André Jacques, édité par Le Mot et le Reste. André Jacques est un auteur québécois que j'apprécie particulièrement. Puis il y aura un sixième livre, oui, Être fille. Je ne savais pas que c'était aussi difficile en Amérique que d'être fille de Mélissa Phébos, qui vient de paraître chez Bellefond, une découverte incontournable à faire. Voilà. Donc je reviens vers le premier livre, celui de René Frény, Minuit dans la ville des songes, édité par Gallimard. C'est un récit mémoire sur son enfance agitée d'un gamin des rues de Marseille retrouvant ses copains dans les rues de Marseille plus que ses camarades d'école parce que c'est un mauvais écolier. Il le dit lui-même pourtant, j'avais été jadis un voyageur insouciant grâce à un paumé véritable ami que l'on découvre après dans ce livre, une rencontre formidable, il devient un lecteur de grand chemin, toujours aussi rêveur, mais un livre à la main. « Je lus, dit-il, adossé à tous les talus d'Europe, à l'orée de vastes forêts, je lus dans les gares, sur de petits ports, des aires d'autoroute, à l'abri d'une grange, d'un hangar à bateaux, où je m'abritais de la pluie et du vent. Le soir, je me glissais dans mon duvet, et tant que ma page était un peu claire, sous la dernière lumière du jour, je lisais. » Voilà, il était redevenu un vagabond, mal rasé, hirsute, un vagabond de mots dans un voyage de songes, d'où ce titre. Porté par l'amour indicible de sa mère qui, malgré cette vie chaotique, croyait en lui. Il fit des rencontres décisives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, une adolescence rebelle avec les vauriens dans les rues de Marseille. 5 années de vol, de mensonges, de transgressions, d'insolence. Atteint d'une hypermétropie sévère qui avait empoisonné toute son enfance, car dans les rues de Marseille, il ne voulait pas porter de lunettes, elle continuait à lui jouer des tours, cette hypermétropie sévère, le poussant irrémédiablement dans la marge. Alors même qu'il acceptait de porter en douce, sans se faire remarquer, des lunettes, une sensation de solitude s'empara de lui. C'est alors qu'il décida de partir en voyage. Ne pouvant vivre longtemps au crochet de ses parents, partir où ? Partir, quitter Marseille, partir en Angleterre, où naissaient les plus grands groupes de rock. Et les filles de Londres, disait-on, étaient plus faciles, plus accommodantes que les Françaises qui avaient peur de tomber enceinte. Alors on le retrouve à Londres, qui le déconcerta, cette grande ville un peu très différente, en tout cas de Marseille. Et à Hyde Park, c'est à Hyde Park qu'il, même s'il avait trouvé un logement, qu'il préférait aller à Hyde Park et s'endormir entre les feuilles. Il devint vraiment un vagabond. Un peu plus tard, c'est à Bournemouth qu'il trouva un emploi au restaurant suisse, c'était le nom, restaurant suisse, comme serveur. C'était pour lui une promotion car, en plus d'un salaire, il était logé et nourri. Mais vous savez qu'il fait froid en Angleterre, surtout lorsque le mois de novembre arrive, froid et pluvieux. Il avait trop soif de soleil, donc il fila à l'anglaise pour retrouver le soleil. Le ciel s'ouvrit à la sortie de Carthagène. Eh bien oui, il est allé jusqu'en Espagne. Il ne pouvait pas aller à Marseille. Il est allé donc jusqu'en Espagne, à Carthagène. La campagne étincela. Ici, c'était septembre. Et il alla même jusqu'à Almeria, au bord de la mer. Un coin de paradis. Malheureusement, il reçut une lettre de sa mère, car il était, et il le sera toujours, en relation avec elle, sa maman. Il était incorporé au 150e régiment d'infanterie motorisée à Verdun, dans la Meuse. 16 mois dans la cour d'une caserne grise. Oh là là, raison pour laquelle il traîna les pieds à rentrer en passant par Limoges. À cause de ces quelques semaines de retard, à peine entré dans la caserne, il fit du cachot. Hirsute, comme il arrivait, on le mit au cachot. Et c'est là qu'il rencontra Ange-Marie Santucci, lui aussi au cachot. Toujours aussi rebelle que dans leur enfance partagée dans les rues de Marseille, en tournant dans la cour, puisqu'il pouvait quand même sortir, faire un peu de gymnastique, marcher en tournant dans la cour et se rencontrer, c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient se parler, en tournant et en l'écoutant parler dans la cour, René a compris ce qui avait changé chez cet homme. Il n'était plus seulement le chef naturel d'une bande d'adolescents, il avait des mots, voilà, des mots qui claquaient comme des balles, des mots qui frappaient chaque cible en plein cœur, des mots qu'il n'avait jamais entendus dans les rues de Marseille. Ange-Marie lui dit alors que depuis 3 ans, il lit un livre par jour et avec les mots, il a beaucoup mieux qu'un calibre à la main. Car les gradés le craignent. Désormais, il connaît leur pouvoir et leur faiblesse. Lis, lis, René, tu leur feras très peur. Et c'est ainsi que René frémit, en suivant son exemple, et grâce aussi à l'aumônier de cette caserne, un homme vraiment très très bien, grâce à cet exemple et à ce conseil, grâce à l'aumônier, René découvrit la lecture et la force des mots. En commençant avec un livre de poche, tout un symbole, quand on connaît René frémit, il s'agit de Colline de Jean Giono. Jean Giono, dont il sera le disciple incontournable. Bientôt, il n'y eut plus de mur autour de lui. Il était sur ces chemins de Manosque où ira René frémit. Dans ces hameaux abandonnés, il sentait la chaleur sur ses épaules et la lente infiltration de l'inquiétude. Voilà, ce fut le miracle. L'émerveillement. Alors, grâce à cet homme, il va réussir à s'évader, grâce à Ange-Marie, il va réussir à s'évader de cette caserne. Mais il sera en fuite, donc il faudra qu'il parte, non pas à Marseille parce que la police, la gendarmerie et puis l'armée le poursuivra d'abord à Marseille où vivent les siens, mais il ira jusqu'en Corse. Alors il y a dans ce livre tout un passage où il est des mois en Corse. Vous verrez comment il va s'en sortir, trouver un travail, survivre un petit peu dans le maquis corse, jusqu'au jour où il va comprendre que la police, la gendarmerie est sur ses traces et qu'il faut qu'il revienne, va voyager en Europe, reviendra en France, refera des études, vous verrez lesquelles, mais toujours un livre à la main. René frémit, conteur devenu écrivain public, chez De Noël au départ, c'est là que moi j'ai rencontré ses livres, chez De Noël, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du monde et des femmes. Fugueur rebelle, passionné de paysages grandioses, qui restent pour lui l'indissociable des chocs littéraires. Et il partage avec vous, lecteurs, il partage dans ce livre ces chocs littéraires. René frémit, c'est un homme qui marche, voilà, un livre et un cahier à la main. Je vous souhaite donc une bonne lecture avec ce livre de René frémit. Minuit dans la ville des songes, édité par Gallimard. Le deuxième livre est un roman de Antoine Billot, intitulé Le soldat Ulysse, édité également par Gallimard, ce qui me permet de revenir sur la Grande Guerre de 1914. Avec ce nouveau roman, nous sommes en janvier 1919. Un soldat totalement amnésique est découvert dans une gare parisienne. Amnésique, ça veut dire qu'il ne sait pas qui il est, pas son nom, rien. Un an plus tard, en accord avec le ministre des Anciens Combattants, désireux de retrouver sa famille, sa photographie est transmise à la presse, est affichée dans tous les mairies de France, dans les bureaux de poste, les écoles et les gares. celui que l'on surnomme désormais, puisqu'on ne connaît pas son nom, le soldat Ulysse, voilà, d'où le titre de ce roman inédit, est aussitôt reconnu par plus de 300 familles. Mais comment trancher ? Ce sera tout le travail remarquable du colonel Milhaud, médecin-chef au Val-de-Grâce, l'hôpital militaire qui se trouve en plein cœur de Paris, non loin du Luxembourg, le Val-de-Grâce que je connais bien, chargé de recevoir fiancés, veuves affligées, mères inconsolables, pères en pleurs, tous persuadés que ce soldat Ulysse est leur amant, leur mari, leur fils. Heureusement, les choses peu à peu vont évoluer. Et au terme d'une année d'enquête, de recherche et de recoupement, ne subsistent que deux possibilités, deux familles, situées dans une belle région de France, du côté de Bannon, non loin de Manosque, justement, une belle région que je connais aussi. Des présentations sont organisées. Réveilleront-elles ? Parce que si on a quelques éléments, le soldat Ulysse n'a toujours pas retrouvé sa mémoire. Réveilleront-elles la mémoire du soldat Ulysse ? C'est ce que je vous laisse découvrir en lisant ce roman tout à fait captivant de Antoine Billot, Le soldat Ulysse. Sachez cependant qu'un certain Albared Baltus Joseph, instituteur, donc il y avait des lettres quand même, domicilié à Bannon, dans les Basses-Alpes, époux de Barbara Bonnefoy, soldat décrété mort pour la France le 23 août 1918 à Cumières dans la Meuse, eh bien, un texte a été établi par le tribunal de Manosque qui dit que, contrairement à ce qu'on pensait, aucun acte constatant ce décès n'a été établi à Manosque. Donc, merci si des personnes peuvent permettre de réparer cette omission. Ce que fera Aurel Bonnefoy. Aurel Bonnefoy était jeune enfant au moment des faits. Il est le frère de Barbara Bonnefoy, qui est devenu trop fragile, la perte de son mari et tout ça, pour faire le déplacement à Paris. Surtout qu'elle a eu un enfant. Elle a un enfant. Mais c'est en venant ici pour la rencontrer que le colonel Milhaud, très attentif, avec l'aide de Ulysse lui-même, pourra faire le bon choix entre ces deux familles et rendre ce soldat à sa famille aimante. Voilà, je voulais quand même vous le dire, que ça se termine bien. J'ai un troisième livre à vous présenter, c'est le Lauzun. Un livre, un roman historique, parce qu'on est, on vit à l'époque de Louis XIV. Lauzun, Michel Ruffin, édité par LBS Sélection, un roman historique passionnant qui raconte l'histoire d'un personnage haut en couleur qui a eu une longue vie à l'époque de Louis XIV. Il s'appelle vraiment celle de Antonin Nompart de Caumont. Durant l'hiver 1647, il arrive à Paris, à peine âgé de 14 ans. Grâce à un parent dans la place, bien placé, à la cour, il va pouvoir rejoindre le corps des cadets de Gascogne et même devenir capitaine. Il est ambitieux, irrévérencieux, adepte des mots d'esprit, c'est déjà un petit peu un Voltaire avant l'âge, brillant sur les champs de bataille, il se comporte vraiment comme un homme fameux, et dans les alcôves des dames de la cour. Ce bourreau des cœurs, y compris celui de la grande demoiselle, mademoiselle de Montpensier, qui nous rapproche de l'histoire de Trévoux. Souvenez-vous, cette mademoiselle de Montpensier était propriétaire d'une grande partie de la Dombe. Autre grand personnage de ce roman, très éprise de Lauzun et qui voulait l'épouser. Alors lui, Lauzun, il laisse traîner les choses parce qu'elle n'est pas aussi belle qu'on peut le penser. Mais voilà, ça lui permet de devenir le favori de Louis XIV. Il n'est pas encore duc à ce moment-là. Et son courage frise l'inconscience dans les batailles. Et sa fantaisie ne connaît pas de limites. Et ses provocations incessantes vont se retourner contre lui. C'est ça le plus grave, parce qu'il ne se rend pas compte. Mettant en cause la moralité de Madame de Montespan, avec qui Louis XIV a eu plusieurs enfants, des bâtards peut-être, mais il les a reconnus, dont le duc du Maine, voilà qui nous rapproche encore de Trévoux. Alors, Louis XIV n'acceptera pas cette mise en cause de Madame de la moralité de Madame de Montespan, dénoncée par Lauzun. Donc, Louis XIV finit par le faire incarcérer à la forteresse de Pignerolles dans le Piémont, où il rencontre Nicolas Fouquet et peut-être, c'est la version de Michel Ruffin, l'homme au masque de fer. Alors, la rencontre avec Nicolas Fouquet, parce que pour lui, Lauzun, cette vie n'est pas acceptable. Dans une chambre cellule de la grande tour de cette forteresse de Pignerolles, avec un geôlier qui le surveille très attentivement, il a des consignes. Il va tenter quand même de s'évader, parce qu'il ne peut pas rester enfermé comme ça pendant des années. Alors, il réussit à, quand même à percer quelque chose, à sortir, mais il sera repris, enfermé à nouveau dans sa chambre. C'est en passant par la cheminée qu'il va déboucher dans la cellule au-dessus de sa tête, la chambre cellule au-dessus de sa tête, où se trouve Nicolas Fouquet. Alors on a l'histoire de Nicolas Fouquet, comment il a défié Louis XIV et comment il s'est trouvé condamné à mort, mais que grâce à un procès équitable, il a pu se défendre et il est à la prison à vie à Pignerolles. Voilà, donc ça vous le retrouverez dans son bon roman historique. Mais on va quand même libérer Lauzun parce qu'on a besoin de lui. Il y a un sujet d'inquiétude, c'est l'Angleterre, le roi d'Angleterre avec sa femme la reine et puis leur enfant. Eux, ils sont catholiques alors que l'Angleterre risque de basculer dans le protestantisme. Donc il y a vraiment le père Jacques II avait été exécuté. Donc on va utiliser, il a des ennemis ce Lauzun à la cour du roi de France. Donc on va l'utiliser en lui disant, ben voilà, il faut libérer la reine d'Angleterre et son fils. Et il va réussir, c'est un nouvel exploit qui va lui permettre de devenir un peu le favori de cette reine d'Angleterre qu'il réussit à faire sortir d'Angleterre et à ramener en France, à la cour royale de France. Ce qui va lui permettre de redorer son blason. Il retrouve sa place à la cour et sur la demeure de la reine d'Angleterre, il sera fait duc de Lauzun. C'est là qu'il aura vraiment ce titre de Lauzun. que je vous dise cependant, ce grand roman historique qui retrace l'histoire véritable du favori, voilà, que je vous dise simplement, je voulais dire, voilà, ce fut fait, donc, qui fut nommé duc de Lauzun le 30 avril 1692. Il fut fait duc de Lauzun par le roi Louis le XIVe. Encore une fois, Lauzun devait tout aux femmes. Ici, c'est Marie Béatrice, donc reine d'Angleterre. Ici, elle est en France. Alors, par la suite, il rêve quand même d'exploits encore, puisqu'il est revenu à la cour. Il est nostalgique de sa charge de capitaine des dragons, de capitaine de la garde royale. Il entend retrouver son aura, mais avant, il songe à se marier. Il a l'exemple du marquis de Saint-Simon, un parent, qui va épouser une fille de Durfort Lorge, maréchal de France, et neveu préféré de feu Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Mais apprenant qu'il y a une autre fille à marier, plus jeune, allant sur ses 15 ans, il va la rencontrer au mariage de Saint-Simon, du marquis de Saint-Simon. Il tombe sous son charme et fait toutes les démarches possibles pour obtenir l'accord de son père. Celui-ci, considérant son titre et son argent, « Ma fille décidera », dit-il, et elle l'accepta. Malgré la différence d'âge, puisque lui avait plus de 60 ans, elle l'aima vraiment, malgré la différence d'âge. Elle s'appelle Geneviève Marie, mademoiselle de Quintin. Malheureusement, et s'il comptait sur le maréchal de Lorge, celui-ci, s'estimant trop vieux, démissionna de sa charge, ce qui fit que Lauzun, qui aussi comptait sur cette nouvelle alliance, fut consterné. Il vécut jusqu'à 90 ans et quelques mois, heureux et insatisfait, car plus aucune campagne militaire à son actif, jugé trop âgé. Alors nous écoutons, comme je l'ai dit, de la musique. Odaliès Michel, vous savez qu'elle était venue, Odaliès Michel, elle était venue à Bourg, à Brou, où j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une pianiste pleine de promesses. Elle était venue à Brou, où je l'ai pu l'entendre. Et là, ici, on va l'écouter avec une musique que j'ai choisie, parce qu'elle aime beaucoup aussi le tango, Astor Piazzolla. Donc on l'entend lancer le grand tango. Elle est accompagnée par sa sœur Laure-Hélène Michel au violoncelle. On l'entend quelques minutes pour... voilà, vous verrez que son piano est prodigieux. Thank you. Donc, voilà, la grande pianiste Aude Liesse-Michel sera en concert à l'auditorium de Pérona, donc c'est facile d'y aller, les 10, 11 et 12 juin 2022. Il faut vraiment, c'est une pianiste jeune et prodigieuse déjà, pour son âge. Elle sera accompagnée au violon par Rosarta Luca, une jeune violoniste talentueuse, et à la clarinette, nous retrouvons Anne Lepage, que nous connaissons bien, et c'est avec grand plaisir que nous la retrouvons. Donc retenez bien déjà ces dates, 10, 11 et 12 juin 2022, à l'auditorium de Pérona pour un concert formidable. Voilà. Alors, j'ai dit que oui, il y avait un... Après Lauzun, un quatrième livre qui est un grand roman de Daniel Krause. Un rêve d'enfance édité par le Rouergue. Avec ce grand roman généreux, Un rêve d'enfance, Daniel Krause nous plonge dans cette belle région que l'on redécouvre avec plaisir, l'Aveyron. Nous sommes à La Serre, non loin de Rodez, que l'on voit aussi dans ce roman. Il se passe des choses à Rodez dans ce roman. Le 14 juin, ça commence comme ça, en 1944, alors que les campagnes sont encore sillonnées de convois de l'armée allemande, ce qui va causer une crainte et un retard, mais quand même, Marielle Lavabre arrivera, l'héroïne de cette histoire, réussit brillamment son certificat d'études. Elle et Mireille, sa meilleure amie, se placent très très bien dans les premières. Elle est particulièrement félicitée par son ancien maître d'école, Gabriel Morel, un beau personnage, généreux aussi. Avant l'ouverture de l'école catholique, le pensionnat Sainte-Anne, où elle découvrit la discipline glaciale tenue par des religieuses enseignantes, Marielle est d'une modeste famille d'agriculteurs très pratiquants. Voilà pourquoi elle avait changé d'école avec le père François, et Germaine Lamère, beau personnage également plein de tendresse pour sa dernière fille. Et leurs enfants. Donc il y a plusieurs enfants. Il y a Brambroise, le fils aîné, qui deviendra missionnaire de Paris jusqu'en Indochine. On le retrouve à Saïgon. Par la suite, Thérèse, ne voulant pas servir de boniche, devient religieuse justement à Sainte-Anne. Mais même si Marielle est à l'école là-bas, ben, il n'y a pas de rencontre entre les deux sœurs. Son frère Sylvain est destiné à reprendre la ferme familiale. Mais il se considère déjà comme un mâle dominant. vis-à-vis de Marielle, la petite dernière, qui, elle, étant très studieuse, vraiment très studieuse, rêve de devenir institutrice. Une ambition à sa portée. Et selon tous les enseignants qui la connaissent, et même d'après Gabriel Morel, après le brevet, après le certificat d'études, elle peut se diriger vers le brevet. Et même après le brevet, elle en a les capacités, elle pourrait très bien aller dans une école normale et donc devenir institutrice. Et lorsqu'ils doivent se déplacer d'un lieu à un autre, c'est grâce à un Augustin Combe, un voisin très aimable, lui aussi agriculteur, mais un peu plus fortuné, et son attelage. Voilà, à cette époque-là, il y a très peu de voitures. Donc, c'est grâce à cet attelage qu'elles pourront aller passer le certificat d'études et que par la suite, ils peuvent se déplacer, aller à la gare ou tout ça, se déplacer dans la région. Il existe une certaine rivalité entre l'école avec Dieu, école payante, et l'école sans Dieu, école gratuite. Mais bon, les parents, la famille, les lavabres sont très pratiquants, donc ils assistent aux messes, à tout ça, toutes les cérémonies prévues. Et donc ils vont à l'école avec Dieu, payante, très payante même. Et lorsque Sylvain annonce son prochain mariage avec Jeanne, une cousine germaine, ce qui va poser des difficultés parce que Jeanne et Marielle ne s'entendent pas très très bien. L'autre veut prendre sa place et gérer déjà beaucoup de choses dans la ferme. Et puis lorsqu'il y aura un enfant, des enfants, une fille, eh bien le fait qu'il soit cousin germain va poser des difficultés à l'enfant. Et puis l'achat d'une motocyclette, parce que pour se déplacer, Sylvain a besoin d'une motocyclette. Donc face à ces dépenses, eh bien François décide que Marielle n'ira plus à l'école payante, mais même plus à l'école du tout. Donc son rêve s'effondre. Grâce à sa volonté et à sa capacité, fuyant la maison, elle va aller à Rodez, où elle se tournera vers la confection. Elle sera d'abord stagiaire, puis comme elle est performante, eh bien elle va réussir à monter des échelons, à être bien considérée, et puis elle va découvrir la mode. Dans ce roman, qui lui a été inspiré par le rêve perdu de sa propre mère, Daniel Kroos campe l'émouvant portrait d'une femme à qui sa famille demande de sacrifier ce qui lui est le plus cher, renoncer à être enseignant, enfin institutrice. À une époque où l'on favorise unanimement les hommes. Pourtant, Marielle, vive d'esprit, sûre de goût et habile de ses mains, voilà pourquoi elle va pouvoir s'en sortir, va parvenir à faufiler le chemin de son indépendance dans la dure étoffe de la condition des femmes de cette époque. Et c'est dans le courage du monde paysan, car à chaque vacances, elle y reviendra dans ce monde paysan pour aider, pour soulager les travaux qui doivent se faire l'été à la ferme. Donc c'est dans le courage du monde paysan que Marielle va puiser la force d'aller au bout de son idéal, grâce aussi à des rencontres décisives que vous découvrirez en lisant ce beau, beau roman, qui vont servir cet idéal. Alors elle va connaître un premier amour, et se marier avec lui, mais suite à un drame que vous découvrirez, elle va devoir revenir à Rodez, retrouver son ancien métier où on l'avait gardé une bonne place car elle était tout à fait méritante. Elle retrouvera de bons amis qui vont l'aider à surmonter ce drame et surtout rencontrer Silvère. Silvère, grand lecteur passionné, et ensemble, ils vont devenir vraiment amis, parlant de lecture, échangeant des livres, et puis même voyageant un peu dans cette belle région que l'on redécouvre sous la plume de Daniel Croze. Grand lecteur passionné, faisant partie d'une grande famille, les Tardieux, qui vont l'accueillir, qui vont accueillir Marielle, même si elle n'est pas de leur bord, mais ils vont l'accueillir à bras ouverts, et ce qui va lui permettre de rêver à nouveau, voilà, de rêver à nouveau, et de devenir, ben vous verrez bien, institutrice, malgré son âge. Et malgré ses manquements, mais voilà. Bon, à vous de découvrir Un rêve d'enfance de Daniel Croze, édité par le Rouergue. On découvre aussi ce Rouergue si attachant dans ce roman de Daniel Croze. Je parle d'un cinquième livre aussi qui me tient à cœur. C'est La bataille de Pavie de André Jacques, édité par Le Mot et le Reste. Pour moi, un bel éditeur. Un bon éditeur. Dans chacun de ses romans, André Jacques, auteur québécois incontournable, exploite brillamment sa fascination pour le crime et le monde de l'art. Et c'est bien ce que l'on découvre avec cette nouvelle aventure de son personnage, Alexandre Jobin. Celui-ci est officier des services de renseignement de l'armée canadienne. Reconverti en antiquaire grâce à son vieil ami Sam Vronsky, qui lui a cédé son affaire, mais Alexandre, qui sort d'une consultation médicale inquiétante, n'est pas en forme. Il sait que sa fin approche. Que faire ? S'isoler jusqu'à l'heure fatale et boire jusqu'à plus soif ? Ce qu'il aime déjà faire chez son ami Théo. Heureusement pour nous, lecteurs, deux événements vont l'extraire de cette spirale destructrice et lui permettre de quitter Montréal, Montréal au Canada. C'est là qu'il séjourne, entre Québec et Montréal, que l'on redécouvre dans ce roman. Tout d'abord, on lui propose un contrat alléchant. Aller en Italie, dans un musée, pour faire expertiser et vendre des esquisses. Il y en a trois, dont deux sont en photo, formant un triptyque. La troisième, l'image centrale, il l'a sur papier, et il doit aller la montrer, aller jusqu'à Rome, au musée pour montrer, parce que elle viendrait de Rome, ce triptyque viendrait de Rome. Donc il faut qu'il aille jusqu'à là-bas pour faire expertiser et vendre ses esquisses, parce que la personne qui lui propose cela a besoin de... C'est vieux, il ne peut pas faire le voyage, et il voudrait récupérer l'argent de ces trois esquisses. Et puis Linda Parenteau, deuxième affaire, Linda Parenteau, ancienne maîtresse, une femme qu'il avait aimée alors qu'il était étudiant, mais qu'il avait délaissée après parce que pour faire son métier, devenir officier des services de renseignement de l'armée canadienne, eh bien il faut pour cela aller dans des campagnes militaires, tout ça. Donc il a quitté son ancienne maîtresse. Celle-ci est désormais derrière les barreaux pour, ben, vous verrez, chose, prostitution ou autre, voilà. Et cette Linda Parento le supplie de se rendre à Palerme afin de retrouver sa fille, qui est leur fille. C'est là où Alexandre Jobin découvre que de cette première maîtresse, elle aurait eu une fille, qui est sa fille. Alors, il va découvrir la photo qu'elle lui donne pour montrer à quoi ressemble Pavi. Et il va trouver qu'elle ressemble à sa grand-mère. Donc, il n'a pas besoin de test ADN pour croire que Pavi est aussi sa fille. Et qu'elle court un grave danger ici au Canada, parce qu'il y a des tueurs qui sont sur ses traces ou qui la recherchent, et puis aussi en Italie, car les tueurs sont aussi là-bas en Italie à sa poursuite. Et ils vont profiter de Alexandre Jobin, qui va effectivement partir en Italie pour pouvoir retrouver Pavi et la tuer, parce qu'elle les a volés, elle leur a récupéré quelque chose, de l'argent, et qu'ils veulent le récupérer. Alors Pavi, c'est aussi une allusion, le titre, La bataille de Pavi, est aussi une allusion à la bataille de Pavie de 1525, dans laquelle François Ier fut fait prisonnier par les troupes de Charles Quint. Oui, l'auteur Jacques André aime beaucoup l'histoire, et il aime décrire aussi la beauté des villes où se déroulent les actions. Voilà pourquoi ce livre vraiment est un bon roman, bon récit, La bataille de Pavie de André Jacques, édité par Le Mot et le Reste. C'est un bon récit car vous découvrirez à grand plaisir beaucoup de choses. Et Pavi, eh bien, la jeune femme est loin d'être en détresse, car pour se défendre, elle manipule un long couteau avec une dextérité stupéfiante, car elle laissant des traces sanglantes sur son passage. Donc, Alexandre Jobin, pour répondre à ces deux propositions, va se rendre à Rome et à Palerme pour mener ces deux enquêtes, basées sur deux continents, continent américain, canadien, et puis continent italien. Car des ennemis dangereux, donc je l'ai dit, sont à leur poursuite. S'engage alors une course effrénée contre la mort. Mais il y a, c'est très bien, à Palerme, vous verrez que Alexandre Jobin mène vraiment une bonne enquête, hein, avec des rebondissements, des retards, des rebondissements. Et à Palerme, eh bien, il va dans les rues, mais aussi jusqu'à... Parce qu'elle n'y est plus, vous le découvrirez, elle n'y est plus, il a réussi, Pavi, à quitter Palerme, en laissant des traces sanglantes, justement. Mais lui, il ne sait pas, donc Alexandre arrive et puis va mener son enquête à l'université de Palerme où elle était en en école, en cours, en universitaire. Il va retrouver la collègue avec qui elle avait partagé une chambre. Voilà, donc tout ça, vous le découvrirez en le lisant, ce très bon roman, avec ses très belles descriptions et cette enquête minutieuse. Avec un retour très explosif par la France et surtout Nice, où des méchants les attendent parce qu'il leur faut un passeport pour passer, pour aller en France. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais vous le découvrirez, on a substitué le passeport de Alexandre Jobin, donc il faut qu'il en trouve un autre, et il a une ressource qui va lui permettre d'en avoir un autre, mais il faut qu'il le fasse, surtout pour Pavie, qu'il doit avoir un passeport ici, pour passer la frontière, donc ils font des démarches, et puis ils vont devoir s'en sortir d'une manière tout à fait explosive, avec du feu, c'est le cas de le dire. Donc, Alexandre, qui a gagné en profondeur, je dis ça, c'est parce que dans le premier livre, là-bas, de pierre et de sang, on le découvre, mais ici, on trouve qu'il a gagné en profondeur et en savoir-faire, il a toujours son savoir-faire, mais avec sa fille, tous les deux vont sembler indestructibles. Ce nouveau roman constitue en effet un ensemble. Après le premier que j'avais présenté sur ces antennes, de pierre et de sang, voici le deuxième volet, la bataille de Pavie. Et il est si bien, ça je vous assure, il est si bien que l'on attend déjà le troisième qui s'intitulera « Ces femmes aux yeux cernés », prévu en librairie en 2023. Ces deux derniers romans ont remporté en 2016 et 2019, c'est-à-dire la bataille de Pavie et ses femmes aux yeux cernés, en 2016 et 2019, le prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier québécois. Une référence que je partage avec plaisir avec vous. Voilà pour ce nouveau roman de André Jacques, La bataille de Pavie, édité par Le Mot et le Reste. Il me reste un sixième livre qui est très différent des cinq premiers. Très différent des cinq premiers parce que on peut le classer en social. Alors que pour moi, c'est un ouvrage qui m'a véritablement happé. Parce que j'aime lire les romans américains. Et je n'avais jamais, me suis jamais rendu compte à quel point la situation des jeunes filles pouvait être aussi catastrophique. Ça s'appelle, c'est un ouvrage donc tissé, à la fois personnel et collectif. Être fille, voilà le titre. C'est de Mélissa Phébos, et ça vient de paraître chez Bellefond. C'est pour ça qu'en librairie, vous le trouverez, mais pas toujours dans les romans ou les essais politiques, mais vous le trouverez plutôt en sociologie. C'est son histoire, avec cette rupture à l'âge de l'adolescence, vécue comme une malédiction. Alors que enfant, elle était vraiment très très bien avec sa mère, qu'elle adore, et que sa mère adore elle aussi. Elle était fière d'elle-même, de son corps, quand elle se lavait dans la baignoire, donc elle était vraiment heureuse. Mais à l'adolescence, il va y avoir chez elle une rupture, se trouvant trop petite, avec de la poitrine, des grosses mains et des grands pieds, donc différentes par rapport à ses camarades d'école qui, à ce moment-là, sont plutôt plates et élancées. Car ce sont des injonctions sociales et patriarcales. Voilà, les hommes, les patriarches entendent imposer, qui conditionnent et définissent ce que les filles valent, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est normal, ce qui est anormal, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Ceci avant les réseaux sociaux, hein, qui vont dans ce sens-là. Et puis la publicité, Mélissa Phébos ne parle pas de la publicité, mais quand on regarde, quand on voit, quand on entend, même si on ne veut pas, la publicité qui est toujours fait beau et qui conditionne justement comment les filles doivent devenir belles. Voilà. Alors, ça sera le drame, justement, de Mélissa Phébos que de devenir une fille qui ne ressemble pas au canon voulu par les patriarches, par les hommes de la société. Et pour mieux comprendre ce conditionnement social qui marque l'existence des filles dès leur adolescence, qu'il faut se raser, qu'il faut faire plein de choses, et surtout pour s'en libérer, il faut porter comme des masques, apparaître comme les autres. Alors quand on ne l'est pas, c'est difficile. Donc pour Mélissa Phébos, pour s'en libérer de ce conditionnement social, elle a puisé dans sa propre histoire une puissante réflexion féministe, mais dans le bon sens du mot, je dirais, sur le rapport au corps et à la sexualité, sur le consentement vide, parce que même dans les couples mariés qui vivent ensemble, il y a bien des femmes qui acceptent un consentement vide, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de faire l'amour ou de faire quelque chose avec leur partenaire, mais elles acceptent quand même ce consentement vide par peur de violence plus importante. Voilà. Et donc, elle parle aussi des violences sexuelles dans ce document tissé. Mais aussi sur l'amour de soi et de son corps. Voilà, il faut parvenir à cet épanouissement, ce que ne veut pas vraiment la société, et l'amour des autres. De s'autoriser à garder dans la maison de notre corps et de notre âme une pièce fermée où vivre à notre guise, libre et à l'abri. Mais le faire au grand jour, voilà ce que voudrait Mélissa Phébos, que ce soit possible de le faire au grand jour, aux grandes dames de la société, qui ne le veut pas. Voilà, c'est un livre pour moi totalement inédit et d'une grande beauté, aussi généreux que bouleversant, qui permet d'entrevoir la perspective d'une vie plus libre et d'un monde où être fille, ce sera enfin être soi, avec son physique, sans masque, sans apparaître comme cela semble aujourd'hui, enfin être soi, tout en écoutant les vérités des autres femmes, raison pour laquelle j'ai dit que c'était tissé, parce que Mélissa Phébos fait parler aussi dans ce texte les autres femmes, leur regard, leur difficulté à être, à s'épanouir avec les hommes, leur mari ou leur amant qui impose un petit peu leur vision des choses. qui pensent plus à leur plaisir personnel qu'au plaisir d'elle, de la femme, pourtant qu'ils aiment, mais un conditionnement comme ça, qui se porte de génération en génération avec cette société patriarcale. Voilà, je termine cette émission avec que j'ai pu établir avec vous, avec grand plaisir, en vous parlant de « Minuit dans la ville des songes » de René Frégny, paru chez Gallimard, du « Soldat Ulysse » de Antoine Billot, également chez Gallimard, de « Lauzun » de Michel Ruffin, LBS Sélection, un nouvel éditeur, je ne connais pas, mais c'est très bien, et Daniel Croze, « Un rêve d'enfance » au Rouergue, La bataille de Pavie, André Jacques, Le mot et le reste. Et puis Être fille, vous verrez que un récit profond, vraiment. Mélissa Phébos, Être fille, qui vient de paraître chez Bellefond. Un livre d'une grande beauté, aussi généreux que bouleversant, où chacune et chacun aussi pourra trouver du réconfort et entrevoir la perspective d'une vie plus libre, d'un monde où être fille, ce serait enfin être soi. Voilà, et je vous quitte en vous disant, au mois prochain, au revoir, bonne lecture.